Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui aujourd'hui vous raconte le cinéma fantastique.
Waouh ! Ils sont pas devenus plus grands ?
Ah si ?
Mais t'as fait comment ?
Je leur ai donné du persil.
Du persil ?
Ouais. Je veux plus que tu rentres là-dedans sans moi, d'accord ?
D'accord.
Puisque vient de sortir en salle le formidable La Nuée, dans lequel une éleveuse de sauterelles comestibles les nourrit avec son propre sang, que sortira bientôt Teddy, une histoire de loup-garou, et que Juliette Ducournau, nouvelle incarnation du cinéma fantastique français, sera en compétition officielle à Cannes dans quelques jours. On va vous raconter donc l'histoire du cinéma français fantastique, c'est dans un instant. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Josiane Balasko qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors par exemple, écoutez, quel est le chef-d'œuvre qu'elle déteste ?
Le dernier film, la comédie musicale.
La La Land.
Voilà, j'ai vu 10 minutes. J'ai trouvé ça à chier. Dès le départ, j'ai trouvé que c'était pas bien, cette espèce de travelling merdeux avec ces gens qui dansent les moyens.
Voilà, La La Land, rhabillée pour l'hiver. Et pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Josiane Balasko, rendez-vous dans une demi-heure. Je vous garantis qu'on va passer un bon moment. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en salle. Au programme aujourd'hui, Tokyo Shaking, avec Karine Viard prise en plein tremblement de terre au Japon, qui découlera sur Fukushima. Nous débattrons aussi d'Ibrahim, la pépite française de la semaine, de Cruella, nouveau Disney, et de Luca, nouveau Pixar. Voilà pour le programme de votre Clap, qui démarre donc avec notre récit consacré au fantastique cinéma français.
Europe 1. Le récit.
L'un des premiers films fantastiques date de 1900. On le doit à Georges Méliès, encore lui, on en parle souvent dans cette émission. Méliès s'adapte alors à un classique de la littérature française. Si je vous dis Le Capitaine Nemo, je parle bien sûr de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Il sera adapté de nombreuses fois au cinéma, notamment en 1954 avec Kirk Douglas.
Entrez messieurs, on est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir. Et maintenant je vous prie d'user de ma très humble hospitalité.
Très humble, qu'il a dit. Vous ne vous refusez pas grand chose, patron.
Appelez-moi Capitaine Nemo.
Laissez-nous vous dire notre gratitude, capitaine. Vous nous avez sauvé la vie.
Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne tolère aucun hôte à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers.
En France, plusieurs réalisateurs se sont spécialisés dans le genre fantastique. C'est par exemple le cas de Roman Polanski dans les années 70 et 80, avec notamment Rosemary Baby, l'histoire de cette femme qui est persuadée de porter un enfant démoniaque.
Ce livre a été publié en 1933 et il existait encore à cette époque-là en Europe de ces confréries. Aujourd'hui, ils appellent ça des cercles. En Europe, en Amérique, en Australie, et il y en a même un ici. Là, à côté, ils sont toute une bande qui chante, joue de la flûte. Ils utilisent le sang dans leurs cérémonies et le sang qui a le plus de pouvoir est celui des nouveau-nés.
Rosemary, pour l'amour du ciel.
Je pense à notre enfant et je ne veux pas prendre de risques. On va sous louer et déménager.
Roman Polanski qui parlait sur Europe 1 de sa passion pour le cinéma fantastique.
C'est le fantastique qui a envahi le cinéma dès le début et qui a effectivement été à l'origine de beaucoup de découvertes, du progrès du cinéma.
Quand on vous parle de Dracula et de vampires, vous avez toujours envie de sourire ?
Oh oui, vous savez, je ne crois pas à l'occulte comme beaucoup de gens pensent. Je vis bien sur Terre. Le fantastique, pour moi, est acceptable seulement dans le domaine de l'art ou du spectacle.
Et en France, très tôt, le fantastique a même son propre festival, dès 1973, le festival d'Avoriaz. La première édition récompense Duel, premier film d'un réalisateur qui deviendra quelque peu célèbre quelques années plus tard, un certain Steven Spielberg.
Oh, Dieu. Rien de cassé, monsieur ?
Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un type en camion a voulu me tuer.
Vous tuez ? Sans blague.
Il m'a poursuivi dans ma descente. Il était juste derrière moi à plus de 130. C'est criminel de faire ça.
Quelqu'un a tenté de vous tuer ?
Depuis, le festival d'Avoriaz a disparu, remplacé par celui de Gérardmer. Festival qui sert de tremplin pour de nombreux films, dont certains deviendront des sagas cultes. C'est le cas de Scream, présenté en 1997. Ou de Saw en 2005.
Bonjour Amanda. On va jouer à un petit jeu. Voilà ce qui t'arrivera si tu perds. L'attirail que tu portes est fixé à tes mâchoires inférieures et supérieures. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée. Il n'y a qu'une seule clé pour réussir à l'ouvrir. Elle est dans le ventre du cadavre de ton compagnon de cellule. Mais dépêche-toi. Vivre ou mourir, à toi de choisir.
Saw, dans le 9e volet, va d'ailleurs sortir en salle cet été. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. En 2001, un autre film de genre fait un carton au box-office, Le Pacte des Loups, avec Samuel Le Bihan et Vincent Cassel. Il s'agit d'une libre adaptation du mythe de la bête du Gévaudan, recréée à l'époque du Moyen-Âge et des chevaliers.
C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres.
Miséricorde !
Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout.
Un loup enragé attaquerait n'importe qui.
Aucun animal n'a des crocs de fer.
Monsieur, vous vous moquez.
Que sais-tu de la bête ?
Elle va continuer à tuer.
Et le réalisateur Christophe Gans nous en parlait au micro d'Europe 1.
C'est difficile à mettre en place. Par exemple, la scène du combat où les deux protagonistes affrontent en fait une horde de gueux. En fait, nous a servi à faire l'affiche. Parce qu'à l'époque, s'est posé le problème de l'affiche. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre sur l'affiche ? Alors les gens essayaient de lancer le film un peu comme un film d'horreur. Et je leur ai dit, non, il faut le lancer comme Batman et Robin. Mmh. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et je leur ai dit, je vais faire une scène où ils vont être masqués. Mais ils vont pas être masqués par un loup noir, ils vont être masqués par les cols des manteaux. Et donc j'ai créé cette séquence qui à l'origine n'était pas dans le script pour simplement figurer l'affiche.
Le film fera plus de 5 millions d'entrées au box-office et cartonnera aussi à l'étranger. Pourtant, malgré ce succès, le genre fantastique au sens large, science-fiction, film de genre, peine à s'imposer dans notre pays. Il faut dire que ce sont des films qui souvent coûtent cher et qui sont donc difficiles à financer. Les réalisateurs qui se lancent dans l'aventure ont déjà fait leur gamme. C'est le cas de Jean-Pierre Jeunet avec La Cité des Enfants Perdus ou plus récemment Micmac à Tire-Larigot.
Vous êtes prêts pour la suite, les gars ?
Pourquoi, les gars ?
C'est parce qu'il va y avoir de l'action.
Ah, donc quand il y en a de l'action, c'est pas pour les filles.
Ah, c'est vrai que toi, t'es pas une vraie...
Une vraie fille ?
Ah non, c'est pas ce que je voulais dire.
Si, c'est ça que tu voulais dire. Et même, t'as voulu dire que j'étais entre la fille ratée et le garçon manqué. C'est ça que t'as voulu dire.
D'ailleurs, les films fantastiques d'aventure, comme Micmac à Tire-Larigot, sont plutôt rares. Les anglo-saxons, en revanche, eux, sont extrêmement prolifiques, que ce soit à travers des adaptations ou des créations originales. On pense à Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, pour ne citer que les plus connus. En France, un réalisateur s'est essayé régulièrement à l'exercice, c'est Luc Besson, avec d'abord Le Cinquième Élément, bien sûr, mais aussi plus récemment Valérian, ou encore Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, l'adaptation de la bande dessinée de Tardy, l'histoire d'une journaliste détective à qui il arrive plein d'aventures.
Lisa ! Si vous voulez consulter, mademoiselle, il me semble que vous y prenez un peu tard.
Mais je vais très bien, merci. À part une nausée depuis quelques secondes, mais ça me fait toujours ça quand je vous vois, professeur, Dieu le veut.
Votre humour est toujours aussi caustique, chère Adèle. Vous en aurez besoin. En attendant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi une grande journaliste comme vous se retrouve ainsi à piller des tombes ?
Je ne pille pas, j'emprunte. Batmosis est professeur de médecine, docteur personnel de Ramsès II, le plus grand praticien que l'Égypte ancienne ait connu. Son savoir n'a pas de limite. Et justement, j'ai besoin de son savoir.
Et pour guérir l'humanité ?
Non, juste ma sœur. Elle est malade.
Et Luc Besson en parlait sur Europe 1.
Le plus jubilatoire, ça a été de tirer l'essence, l'ADN des personnages de Tardy, puisque tous ces personnages existent dans la bande dessinée, et d'essayer de les mettre en vie, de leur mettre des dialogues en bouche et d'essayer de les faire bouger dans une image. Voilà, ça c'est assez jubilatoire.
Alors ces dernières années, les choses ont changé. Les films fantastiques, les films de genre, même au sens large, se sont démocratisés grâce aux plateformes en partie. Certains se sont même retrouvés sélectionnés au Festival de Cannes ou au César. C'est le cas de Grave de Julia Ducournau. L'histoire d'une étudiante vétérinaire qui se découvre anthropophage.
Vous avez intégré notre grande école, les anciens vous en félicitent. Vos professeurs feront de vous l'élite des médecins vétérinaires et vos anciens vous aideront à devenir une famille pour la vie. Mais d'abord, vous allez devoir apprendre. Apprendre à être unis, apprendre à obéir, apprendre à être de bons bisous.
Et pourtant, c'était le tout premier film de Julia Ducournau. Preuve que les choses sont en train d'évoluer. D'ailleurs, son deuxième long métrage, Titane, intègre même la sélection officielle de Cannes. Il va concourir pour la Palme d'Or dans quelques jours. Alors dans son sillon, d'autres réalisateurs ont vu leurs films sortir, comme Revenge ou La Nuée, produit par Thierry Lounas en ce moment au cinéma. Thierry Lounas et Vincent Maraval, qui viennent même de créer un label spécifique pour ces films, Wild West. Justement, je les accueille dans un instant pour continuer notre réflexion autour du cinéma fantastique français. Mais d'abord, puisqu'on parlait d'Adèle Blanc-Seic, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film. Catherine Ringer à la chanson, Eric Serra à la composition. Vous êtes bien à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Deux ailes, y a pas au prénom de mademoiselle Adèle, mais deux jambes, elle a pour s'envoler sans embarras. Ouais, cherche un peu, sans aventure, elle serait morte Adèle. La pas d'amoureux, mais la belle aventure que ce jeu. Elle n'hésite pas, pour sa sœur, elle met tout son cœur. Oh, tout est perdu, c'est alors qu'elle peut donner du style. Elle est plus têtue que cette bande d'abrutis sans humour.
Big Blanc Sec.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Aujourd'hui, on s'intéresse au cinéma fantastique made in France. Et pour poursuivre notre réflexion, j'accueille Thierry Lounas et Vincent Maraval. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux producteurs de cinéma et surtout, vous venez de fonder ensemble un label spécifique qui s'appelle Wild West. D'abord, expliquez-nous pourquoi créer ce label et surtout pourquoi le créer maintenant finalement.
Ça correspond à un moment où ça fait. Moi, je dirige également le magazine Sofim et on avait monté des résidences Sofim de genre pour le développement justement en France d'un cinéma fantastique, un cinéma de genre qui a existé mais qui n'existe plus. Et on s'est lancé dans cette aventure avec différents partenaires, dont Wild Bunch, dont Vincent, il y a quelques années. Et le premier film issu de ces résidences, La Nuée, sort aujourd'hui, mais c'est un processus déjà assez ancien qu'on a commencé, Wild Bunch comme vendeur et moi comme développeur-producteur. Et là, on a décidé à partir de maintenant, depuis La Nuée, d'associer nos forces parce qu'il y a aussi besoin de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires du cinéma français et international pour pouvoir produire un cinéma français de genre plus ambitieux.
Parce qu'on a l'impression, Vincent Maraval, que les Français se sont longtemps intéressés aux films de genre, mais étrangers, plutôt qu'à ceux finalement fabriqués dans notre pays.
Oui, ça vient aussi de la méthode ou du mode de financement des films français. C'est-à-dire que comme chez nous, c'est surtout la télévision qui finance les films, et que les films de genre sont pas vraiment faits pour un public de télévision. C'est vrai que ça a toujours été le parent pauvre un peu de la production cinématographique française, même si moi j'étais au studio Canal quand on a fait le Pacte des Loups, même si le cinéma de genre a quand même jamais totalement disparu, il a toujours été là. C'est juste que c'est en effet un genre un peu délaissé ou un parent pauvre, disons, de notre industrie.
Ça veut dire que c'est aussi l'émergence de toutes ces plateformes et de tous ces canaux de diffusion aujourd'hui qui permettent peut-être de créer ce label et de développer plus de films de genre ?
Je pense que c'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a d'abord il y a quelque chose de culturel. C'est vrai qu'il y a des films type Grave, par exemple, qui ont permis aux gens d'être pris au sérieux par l'industrie, alors qu'en France, on avait tendance à pas prendre ça au sérieux, à penser que c'était un cinéma pour adolescents ou un sous-genre. Mais je pense que tout d'un coup, il y a eu une espèce de prise de conscience de ce que le genre pouvait représenter. Et en effet, l'arrivée de nouveaux partenaires dans le financement, qui sont tournés peut-être vers un public plus jeune et plus audacieux, et qui en effet vont, en tout cas c'est ce qu'on espère, vont aider à faire au financement ou à faire émerger une tendance du genre à la française.
Justement, vous parlez de Grave, quand vous voyez Julia Ducournau, Thierry Lounas qui débarque à Cannes dès son deuxième film en compétition, le deuxième film s'appelle Titane, on aura l'occasion d'en reparler, vous vous dites que là aussi les choses changent ?
Oui, je pense que les choses changent parce que le genre, il a besoin aussi que des auteurs produisent des œuvres de manière récurrente, qui sortent en salle, et qu'il n'y en ait pas qu'un, qu'il y en ait plusieurs. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce qui a été initié il y a quelque temps, et notamment par Wild Bunch, commence à porter ses fruits. Ensuite, je pense aussi que les temps changent. Je pense qu'il y a un renouvellement de génération. Le public d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et que le genre est, à mon avis, beaucoup plus central pour lui. Qu'ensuite aussi, c'est le monde qui change, puisque aujourd'hui, l'état de la planète, les sujets de société font qu'on est beaucoup plus tourné vers des questions à un moment de catastrophes, de fantastiques. Le Covid, ça fait partie à un moment de choses qui teintent à un moment le cinéma, qui est là aussi pour rendre compte du monde tel qu'il va, et le genre, du coup, s'impose un petit peu aujourd'hui.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez de la nuit. Il y a une dimension, on va dire, écologique au sens très large dans le film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma de genre aussi s'intéresse aux questions sociétales, finalement.
Oui, absolument, et c'est bien ce qui nous rapproche avec Vincent, et moi c'est pourquoi j'ai eu envie aussi d'avancer avec Wild Bunch dans cette aventure de Wild West, c'est qu'on a tous les deux envie que le genre parle du cinéma d'aujourd'hui, que le film soit autant un film de genre qu'un film qui parle du monde, de la société, de plein de sujets politiques. Aujourd'hui, c'est vrai que La Nuée est autant un film sur l'agriculture hors sol, hyper intensif, avec des marges de plus en plus réduites, qu'un film, disons, d'insectes ou de monstres. Et c'est ça, à mon avis, le genre qui est appelé de nos voeux en France. Et je pense qu'aussi, c'est le petit plus que pourra apporter le cinéma français au cinéma de genre international.
Vincent Maraval, l'ambition, c'est de faire, je lisais, une grosse dizaine de films ou séries par an. On se dit, c'est, pour le coup, ambitieux.
Oui, c'est ambitieux, mais je pense que c'est aussi l'observation de ce qui a été fait dans les résidences de Thierry, de son film. C'est-à-dire qu'on a vu... En effet, énormément de sujets de qualité sortir, et on a vu la large palette que pouvait représenter le développement de films de genre à travers la résidence au film. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de rite de croisière qu'on aimerait atteindre, mais qui répond aussi à ce qui est développé. C'est-à-dire que ces films-là existent, sont des choses que nous, on a envie de distribuer, financer, produire, etc. Et qu'on va pas commencer à se dire tiens, on n'en fera que 3 et on va en sacrifier 7. C'est-à-dire que c'est un peu la quantité moyenne qui arrive chaque année des résidences qui fait qu'on aimerait en effet atteindre ce rythme de croisière.
Thierry, justement, on a envie de vous demander des exemples parce que vous avez annoncé une dizaine de projets. Je voyais notamment Les Mains d'Orlac, là on est dans le thriller fantastique, racontez-nous.
Les Mains d'Orlac, oui, c'est un thriller fantastique. C'est un film que devait faire Raoul Ruiz juste avant de mourir avec Mévile Poupeau. Et c'est un film qui est né d'une discussion avec Mévile Poupeau, qui devait jouer le rôle d'Orlac, ce pianiste qui perd ses deux mains dans un accident de voiture et qui se voit greffer des mains d'assassin et qui va devoir tuer pour pouvoir retrouver son niveau de piano qui était le sien avant. Donc là, voilà, on est dans un film entre Cronenberg, thriller. Voilà, c'est un des projets parmi les 10. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'on voit bien que aussi, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin des acteurs. On a besoin de gens pour incarner, puisque je pense que le cinéma de genre qu'on défend aujourd'hui, c'est un cinéma de personnages avec une vraie profondeur de personnages. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire assez tôt avec des acteurs tels que Mévile Poupeau ou même Karim Leclou, qui lui incarne un autre personnage d'un projet qui est aussi dans les 10 premiers projets de Wild West, qui est Vincent doit mourir, qui est l'histoire d'un graphiste, d'un quarantenaire qui découvre du jour au lendemain que tout le monde veut le tuer. et qui essaie de comprendre pourquoi il y a autant de violence dans le monde qui l'entoure. Et voilà, c'est un beau projet également qui vient juste d'avoir Arte d'ailleurs. Donc on est parfois aussi dans un financement extrêmement classique hein, de cinéma. Voilà, il y a plusieurs projets ainsi qui sont tous très différents puisque le genre, c'est pas horrifique. Hein. Là, on est dans une acceptation très large du genre. Ça peut être thriller, polar, aventure, SF, fantastique. Donc ça fait quand même une grosse palette.
Et ce cinéma-là français, Vincent Maraval, vous le vendez facilement aux pays étrangers?
Mais La Nuée, c'est très bien vendu. Nous, quand on a démarré Wild Bunch, un des premiers films qu'on avait fait, c'était Promenons-nous dans les bois, qui était aussi un film de genre. On a aussi fait des films de genre autres que français, comme Le Labyrinthe de Pan ou L'Orphelinat. Et en effet, c'est des films qui ont en tout cas un écho plus large en termes de marchés internationaux que le drame ou le film d'auteur français.
C'est-à-dire qu'on commence à avoir un savoir-faire français reconnu aussi à l'étranger dans ce domaine-là, quoi.
Oui, je pense qu'on a, dans l'approche du genre, une originalité. C'est en effet un regard politique sur les choses, un regard sociétal sur les choses qu'on met dans nos films de genre et qui fait qu'ils ne ressemblent pas aux films de genre américains, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles aujourd'hui de films de genre. Il y a le film de genre asiatique, notamment coréen et japonais, qui est très particulier. Il y a le film de genre espagnol qui est aussi particulier. Et nous, on espère qu'on fera émerger quelque chose qui permet de rendre les histoires peut-être un peu plus universelles parce qu'elles sont plus ancrées dans la réalité des gens.
Eh bien, merci, messieurs Thierry Lounas, Vincent Maraval, qui ont donc fondé Wild West. Et j'encourage en tout cas nos auditeurs à aller découvrir La Nuée de Juste Philippot, qui est en salle en ce moment. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de votre clap. On va ouvrir notre séquence « Les films de ma vie ». Et aujourd'hui, c'est Josiane Balasco qui a accepté de nous raconter ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Josiane Balasco. Bonjour.
Bonjour.
Pour la sortie, il y a quelques jours, d'un tour chez ma fille. Votre fille, c'est Mathilde Seignier. Le gendre, c'est Jérôme Commandeur. Pas besoin. Le titre est finalement assez clair. Vous avez des travaux dans votre appartement et vous revenez chez eux. Sauf qu'évidemment, chez eux, c'est chez vous, en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire que je m'installe un peu chez eux, alors que c'est juste pour quelques jours, mais ça va durer. Elle va devenir assez intrusive, cette femme, dans la vie privée de sa fille et de son gendre.
Champagne, tranquille tous les deux.
Maman, tu disais que tu viendrais dormir à la maison un de ces jours.
Et en l'occurrence, c'est aujourd'hui.
Bon, allez, dodo.
Mais comment ça, dodo?
Si vous voulez avoir un rapport, pas de problème. J'ai mes boules qui essent.
Merci, maman.
Et c'est une des comédies de l'été que je conseille à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes prête pour ce questionnaire, les films de ma vie?
Allons-y.
Votre premier souvenir de cinéma?
Mon premier souvenir dont j'ai vraiment... Il y en a deux, mais un dont j'ai vraiment gardé trace, c'est parce que c'est Le Colosse de Rhodes, projeté au Gaumont Palace. Ce cinéma qui faisait 5000 places, je crois 4000 et quelques places, qui était place Clichy à la place des taudis modernes qu'ils ont fait, c'est-à-dire des magasins de bricolage et des hôtels, voilà, des chaînes d'hôtels. Il y avait cet immense cinéma. Et je me souviens avec mon père avoir vu Le Colosse de Rhodes. Et je crois que c'était le premier film de Sergio Leone qu'il avait signé d'un faux nom d'ailleurs. Où il travaillait sur le film, en tout cas.
Il est émouvant de voir un étranger éprouver un tel enthousiasme pour notre île. N'as-tu pas remarqué que les femmes n'avaient Dieu que pour toi?
J'ai seulement remarqué que toi, ne me regardais pas.
Peut-être parce que les héros m'intimident?
Eh bien, excellente occasion de vaincre cette timidité, à supposer naturellement que je sois un héros. À moins que tu me préfères un homme quelconque.
Disons qu'un héros, c'est beaucoup. Et qu'un homme quelconque, c'est trop peu.
Et votre meilleur souvenir en salle, Josiane Balasco?
Mon meilleur souvenir en salle, je vais au Festival de Cannes, dans lequel est projeté le film de Bakri Djaoui, Comme une image. Et c'est la première fois que je vois ma fille au cinéma.
Pourquoi tu l'en veux à ton père comme ça?
Tu n'en veux pas, j'ai envie de le tuer de temps en temps, c'est tout.
Oui, elle est en colère, en général, c'est une colère sur deux pieds. Elle en veut la terre entière, et à moi en premier, évidemment.
Avec sa mère, comment ça se passe?
Ma mère, ça fait 5 ans qu'elle vit aux Antilles, je risque pas de t'en parler.
Ta mère, c'est une folle qui fait des stages de yoga en Martinique.
Et c'est projeté devant une salle pleine de toutes les célébrités cinématographiques du monde entier. Et je suis extrêmement fier. Voilà.
Et votre pire souvenir en salle?
Oh, il y en a plein. Il y en a toujours plein quand les gens n'aiment pas les films. Ou pire souvenir en salle, en général, quand j'aime pas du tout un film, je m'en vais, hein, sincèrement.
Ah oui?
Ah ouais.
Faites partie de ces gens qu'on voit sortir en
plein
milieu.
Au théâtre, on ne peut pas partir par respect par les acteurs, mais au cinéma, il y a 5 séances. Je peux me casser. Voilà. Ça m'est arrivé de voir des films, je disais, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que cette. Je m'en vais.
C'est quoi le dernier ?
Je ne peux pas le dire. Je ne dirai jamais, non, je ne vais pas cracher sur le cinéma. Des choses que certains trouveront magnifiques, que moi je peux trouver nulles. Donc voilà.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma et que vous avez peut-être découvert à la télévision.
Je crois que je les ai vus, les films que j'aurais aimé voir au cinéma, que j'ai découvert à la télé. Voilà, le film que j'aurais aimé voir au cinéma, mais que je n'ai pas vu parce que j'étais trop petite quand il est sorti, c'est, il y en a deux. La mort aux trousses, ça j'aurais aimé le voir au cinéma, mais j'étais trop petite quand il est sorti.
Il est évident que vos amis se sont trompés de marchandises lorsqu'ils m'ont obligé à les accompagner.
Asseyez-vous donc, monsieur Kaplan.
J'ignore qui s'appelle Kaplan, mais ça n'est pas moi.
Je serais simplement curieux d'apprendre ce que vous connaissez de notre organisation et de plus quelles ont été vos sources d'informations. Le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir une chance de survivre à cette soirée.
Et le deuxième, c'est Certains l'aiment chaud. Voilà. Qui est sorti aussi dans les années 50, 58, 59, je ne sais pas. J'étais trop petite voilà, à cette époque.
Et pourquoi si vous auriez voulu voir sur grand écran?
Bah, parce que la mort aux trousses, c'est... ça mérite le grand écran. Et Certains l'aiment chaud aussi.
Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre que vous détestez ?
Des chefs-d'œuvre ? Je ne sais pas, souvent c'est dans les films américains où les gens sont, ils en reçoivent 10 Oscars et c'est de la daube. Le dernier film, la comédie musicale.
La La Land.
Voilà. J'ai vu 10 minutes. J'ai trouvé ça à chier.
Pourtant, les 10 premières minutes, en plus, c'est un long plan séquence.
Oui, mais c'est un long plan séquence avec des danseurs qui dansent moyennement. Il n'y a pas un black dans l'histoire, il n'y a que des blancs. Mais c'est pas pour faire. On est aux États-Unis quand même, hein, on n'est pas. Et j'ai trouvé que c'était par rapport. Donc j'en ai vu 10 minutes et j'ai arrêté, hein, parce que c'était à la télé en plus. Alors donc j'ai même pas fendu d'une séance de cinéma. Et j'ai dit non, c'est pas pour moi, je préfère regarder Chantons sous la pluie, je préfère regarder Bandwagon, avec des vrais danseurs. Voilà, point. Mais bon, le cinéma américain est spécialiste de l'autocongratulation et de l'hommage, l'auto-hommage. Donc, c'est un auto-hommage aux comédies musicales qui sont bien meilleures. Alors, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'ai fait une erreur, parce que les 90 minutes qui suivaient, peut-être formidable.
Mais vous n'êtes pas rentré dedans ?
Non. Non, ça m'a. Dès le départ, j'ai trouvé que c'était pas bien, cette espèce de travelling merdeux avec ces gens qui dansent ces moyens. Bon, là, je vais me faire insulter, mais c'est bien de se faire insulter quand on n'est pas d'accord.
T'es viré.
Vous dites ça, mais vous ne le pensez pas. Ce que vous voulez dire, c'est...
T'es viré. Je te dis que c'est trop tard.
C'est un avertissement.
T'es de quelle planète, toi ? C'est fini.
Ne me virez pas.
Je suis désolé, Seb. C'est fini.
C'est les fêtes de Noël.
Oui, je sais, je vois les guirlandes. Bonne chance pour le nouvel an.
Est-ce qu'à l'inverse, il y a un film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer ?
Oui, il y en a plein. Non, j'ai aucune honte à avouer les films que j'aime. Par exemple, j'adore Jason les Argonautes. Voilà. Pour moi, c'est chef-d'œuvre.
Ah oui ?
Ah oui. Jason les Argonautes, chef-d'œuvre. Parce que la danse des squelettes, avec animé par Ray Harryhausen, qui était un spécialiste de la slow motion, vous voyez. Moi, je suis assez spécialiste là-dessus. C'est un chef-d'œuvre. Jason les Argonautes.
Tous nos auditeurs vont se jeter pour.
Il faut le voir.
Sur la
c'est,
VOD.
C'est un vieux film, hein, ces années 60. Hein.
Elias. Ce soir, tu vaincras. Tu vas conquérir le royaume de Thessalie. Tu vas tuer le roi Aristos et porter sa couronne. Tu feras toutes ces choses sans répandre ton sang, parce que Zeus le veut ainsi.
Si je suis protégé par Zeus, je vais mettre cette épée au feu en offrande à nos dieux.
Quel est le film qui vous fait le plus rire ?
Il y a les tontons flingueurs me font pleurer de rire. Il y a des moments qui sont moins bons, mais il y en a, ceux qui sont bons, ils sont archi bons.
Il revient souvent, les tontons flingueurs.
Ouais, tontons flingueurs. Ou, je vous dis, un film de... moi, ce qui me fait extrêmement rire, c'est aussi Certains l'aiment chaud, des films de Billy Wilder, qui peuvent être à chialer. Voilà.
Ascoute, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi ?
Pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas, Scoop.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Est-ce qu'il y a un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur ?
Un dialogue de cinéma que je connais par cœur, à part ceux de films que j'ai faits, dont les bronzés font du ski, que je connaissais pas totalement par cœur parce qu'il y a des jeunes qui les connaissent plus que moi.
Mais justement, c'est lequel qui vous reste en vous ?
Le Père Noël, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'énerver. Homme en retard, disons, en tiroir, voilà. Voilà, des personnes. Ça, je les connais. Voilà.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Bon, ça dépend si c'est un film ancien, un film. Ça dépend qui il est. Mais s'il connaissait rien au cinéma, je dirais de commencer par les films d'Hitchcock. Tous les films d'Hitchcock sont des chefs-d'œuvre. Même ceux qu'il a tournés en Angleterre, comme les 39 Marches, Young et Innocent, une dame disparaît. Les films en noir et blanc qu'il a tournés en Angleterre sont des merveilles.
Mais oui, c'est bien la petite sœur des pauvres.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes complètement fou, vous ne savez donc pas qui je suis?
Si, vous n'êtes que la fille du commissaire. Ainsi que mon ange gardien.
Si vous trouvez ça drôle, tant mieux pour vous. Vous vous rendez compte que la moitié du pays vous recherche en ce moment? Et que je vous recherchais moi aussi.
Oui, maintenant que vous m'avez trouvé, je tiens à vous aider. J'ai même l'intention de pousser ce vieux taco jusqu'au prochain poste à essence.
Ma voiture n'est pas un vieux taco. Mais enfin, c'est absurde, vous n'avez aucune chance de vous échapper. Il faut que j'aille prévenir la police immédiatement.
Vous savez ce que vous devriez faire?
Non.
Me remercier de pousser ce taco.
Merci.
Faudrait pas oublier que c'est moi qui fais tout le travail.
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi?
Oh, je sais pas ce que je pourrais lui conseiller. La Lande. Je lui conseillerais d'aller. Non, parce qu'il aimerait. Hein. Si mon pire ennemi, il aimera. Non, au cinéma, c'est très dur de conseiller quelque chose à votre pire ennemi. C'est très très dur parce qu'il risque d'aimer, parce que c'est votre pire ennemi.
Et quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Josiane Balasko?
Ah, je crois que c'est Rencontre du troisième type. Ah bah oui. Bien sûr, Rencontre du troisième type, avec cette musique lancinante qui est l'arrivée des extraterrestres. Vous savez, quand sont sortis tous ces films, c'était les débuts de la science-fiction vraiment bien faite au cinéma. Il y avait E.T., je me souviens avoir assisté à les débuts de Star Wars. Tu vois, les gens faisaient la queue pour aller voir Star Wars. Maintenant, ça paraît que ça paraît. Moi, je le revois toujours, Star Wars, sans déplaisir. Hein. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu.
Voilà.
Et puis donc j'invite nos auditeurs, c'est en salle, Un tour chez ma fille. Alors c'est pas la suite de Retour chez ma mère, mais c'est dans le même esprit en
D'accord.
tout cas. Ceux qui avaient aimé Retour chez ma
voilà.
mère, ils aimeront Un tour
Absolument.
Chez ma fille. Merci Josiane Balasko.
Au revoir.
Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission cinéma. Le temps d'accueillir mes collègues critiques et on va débattre justement des films sortis en salle mercredi dernier.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
On se retrouve les amis pour la dernière partie de Clap avec aujourd'hui autour de la table Caroline Vier de 20 minutes et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va débattre de Tokyo Shaking avec Karine Viard, d'Ibrahim, de Cruella aussi, nouvelle version. Et puis nous parlerons de Luca qui arrive sur Disney+, qui est arrivé sur Disney+. Mais d'abord donc Tokyo Shaking en salle, film signé Olivier Payon avec notamment Karine Viard.
Vous vouliez me voir?
J'ai eu Paris, il va falloir encore nous alléger.
Vous ne m'avez pas embauché pour licencier, j'ai l'impression que je fais que ça depuis que je suis arrivée.
Paris préfère licencier ici à un bras de fer social en France.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer.
C'est une catastrophe nucléaire, alors tu m'envoies les enfants.
C'est bizarre, aucun des Japonais ne veut partir.
Un code samouraï. Le groupe, le contrôle de soi, le suicide rituel.
Voilà, vous avez compris la toile de fond, on est donc le 11 mars 2011, un tsunami ravage la côte du Japon, menace de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, qui est donc Karine Viard, travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo et elle se retrouve au cœur de cette crise. Elle va devoir gérer notamment le rapatriement des salariés de l'entreprise. Alors doit-elle rapatrier que les Français? Doit-elle rapatrier aussi les travailleurs japonais, les travailleurs étrangers? C'est une sorte, j'allais dire, de huis clos, pas tout à fait, mais quand même, on est dans le bureau avec elle, ses questions, ses questionnements, ses interrogations. Moi, je trouve que c'est un film très tendu qu'on n'avait pas vu arriver, qui est sorti et que je trouve emballant. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Super. Karine Viard, très très bien.
Non, mais j'adore Karine Viard. Donc, Fukushima, effectivement, dramatique, donc forcément très sensible à ce qui s'est passé.
C'est un très très joli film. Karine Viard joue très bien. Quand on connaît le Japon, c'est un plaisir de voir des paysages. Et puis, on revit cette histoire de Fukushima et puis l'histoire personnelle aussi. C'est vraiment un film jouissif.
J'adore Karine Viard et ça se trouve toujours épatante et le film est franchement très bien.
Non, c'était bien fidèle à ce qui s'est passé sur place. Parce que j'étais sur place, moi, en fait. Donc voilà, ça va, c'était bien.
Et voilà, Marjorie Adelson, elle trouve même des gens qui étaient sur place pour leur faire parler du film qui
raconte. Trop forte.
Alors là, on est dans,
bravo,
dans le talent
bravo.
Pur. Carole Olivier, Tokyo Shaking.
Je suis assez d'accord avec les gens du micro-totoir. J'ai trouvé le film fort. Je n'étais pas sur place, mais je connais le Japon et ça m'a semblé assez fidèle à ce que j'en savais.
Et à la mentalité, notamment japonaise.
Voilà, et surtout, je suis fan de Karine Viard. Cette femme est absolument épatante. Elle est crédible dans tout ce qu'elle joue, et Dieu sait qu'elle joue des rôles différents, hein. Dans des comédies ou dans des drames comme celui-là. Rien que pour elle, je trouve que le film vaut vraiment la peine.
Parce que sans trop en dire à nos auditeurs, mais c'est vraiment voilà, la femme qui va, c'est le capitaine qui va rester à la barre du navire jusqu'au bout. Quoi.
Ben oui, et puis elle n'a pas un rôle facile, elle doit licencier des gens, elle doit prendre des décisions qui sont vraiment très compliquées à prendre, et c'est un rôle pas facile, et dans le film, et dans la vie du personnage.
Fabrice Leclerc, Tokyo Shaking.
Vous aviez quitté Karine Viard dans Les Apparences, qui était une expat à Vienne,
vrai,
si je ne m'abuse, et vous la retrouvez dans Tokyo Shaking.
Expat
elle
au Japon.
Expat au Japon. Moi, j'aime bien le film parce qu'il va dans plein d'endroits différents. C'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, parce que je pense qu'il y a eu des concessions faites à une certaine narration. Mais il y a une façon de montrer déjà le quotidien des expats, une façon de montrer surtout le tremblement de terre et le tsunami et tout ce qui va s'en suivre, Fukushima, d'une manière assez originale. Il y a des moments étonnants. Moi, je me souviens de la scène d'un chien, parce que cette famille-là a un chien, et ce chien va jouer un rôle assez important dans le film. Il y a plein de bonnes choses. Karine Viard est très très bien parce qu'elle arrive à jouer autre chose. C'est pas une bourgeoise un peu expat,
ah non,
vous savez, qui vit dans l'entre-soi. Il y a plein de choses. Il y a aussi des petites erreurs, des petites concessions à une narration parfois un peu étonnante. Mais c'est un film intéressant. C'est un film qui raconte beaucoup de choses. Et puis, alors, on ne l'avait pas vu venir. Vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez tout à fait raison. Mais alors, il y a quand même un sentiment de post-confinement dans ce film. Ouais. On voit des gens avec des masques à certains moments. Et je pense que s'il sort maintenant, c'est pas un hasard. Ça raconte aussi de l'isolement face à une catastrophe qui arrive.
Et puis on voit vraiment la méfiance des expatriés face à ce que leur raconte le consulat ou l'ambassade française. C'est assez bien vu, en fait, effectivement.
Il y a plein de petites choses. Et c'est voilà, tendu jusqu'au bout. Allez découvrir Tokyo Shaking. C'est donc signé Olivier Payon, avec notamment, on l'a dit et redit, Karine Viard. Autre très belle surprise, je trouve, pour ma part, on va voir si mes amis partagent mon avis, mais c'est le film Ibrahim, premier film de Sabir Ghesmi.
Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet, tu le déposes ailleurs. Moi, je rentre et je fais ce que j'ai à faire.
Putain.
Qu'est-ce qu'ils font, tes parents ?
Mon père, il travaille dans une brasserie.
Et ta mère ?
Elle est pas là.
On va appeler ton père, c'est tout ?
Pas mon père. J'ai besoin de thunes, là, j'y arrive pas tout seul.
Quoi, t'as besoin ?
Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses prothèses.
Qu'est-ce que tu fous dehors tout seul ?
Je pense.
T'es un rêveur, en fait.
Ah, ce film, c'est vraiment l'histoire d'un amour, de l'amour père-fils, avec tout ce qu'il a de complexe, de difficile, de beau aussi. Alors, en l'occurrence, c'est l'histoire d'Ibrahim et Ahmed. Ahmed, il était écaillé à la brasserie du Royal Opéra. C'est un homme sérieux, droit. Ibrahim, c'est donc son fils, tiraillé entre eux, cette éducation reçue. Et Achille, ce pote du lycée qui essaie de l'emmener dans des petits larcins. Un jour, il va l'entraîner dans un vol, je vous en dis pas plus. Sauf que le papa va devoir payer les dégâts et que du coup, il va pas pouvoir se payer ses prothèses. Vous entendiez, c'est des prothèses de danse qui, évidemment, va remettre en question beaucoup de choses entre ces deux êtres. Est-ce que ce film et ce duo vous a touché ?
Un beau film, moi j'ai trouvé, ça montre bien Paris. D'abord le Paris qui n'est pas forcément celui des appartements haussmanniens qu'on voit assez souvent. Et puis je trouve la relation père-fils est vraiment intéressante parce qu'ils n'arrivent pas à se parler. C'est assez riche dans le silence et dans tout ce qui est dit.
L'enchaînement des faits, le rapport entre le fils et son père. Ouais, non, ça m'a plu.
Ce sont des acteurs qu'on voit assez peu, mais qui sont toujours remarquables et très justes.
J'ai bien aimé ces Rufus dans le café. Il lui demande qu'il faut enlever sa chapka et son manteau et voilà, qu'il soit plus à l'aise dans son corps aussi.
Bah, le metteur en scène, je ne sais plus déjà comment il s'appelle, mais il est bien parce qu'il est sur la retenue. Donc voilà, c'est un film très très touchant, assez authentique quoi.
Voilà, bah comme pour Tokyo Shaking, le public est plutôt emballé. Ibrahim, Fabrice Leclerc.
Ouais, moi, je suis suremballé. Je suis quasiment un paquet cadeau de fin d'année. Non, c'est un des plus beaux films de 2021 qui devait sortir en 2020. Il devait être en compétition au Festival de Cannes l'année dernière. Il a reçu tous les prix au Festival d'Angoulême. Il a reçu tous les prix au Festival d'Angers. C'est un film extrêmement touchant de Sabir Ghesmi. Sur la relation évidemment entre un père et son fils, sur deux hommes aussi dont l'un a oublié ses rêves et vit sa petite vie tranquille, et l'autre, eh ben, parce qu'il est jeune, il veut encore rêver. C'est touchant comme la caresse d'un papa sur la joue d'un enfant. Je trouve que Sabir Ghesmi est un metteur en scène brillant, est un acteur touchant. J'ai vraiment été porté par ce film, ça m'a ému. C'est un petit grand film ou un grand petit film. En tout cas, c'est parmi les plus beaux films français qu'on a vus cette année.
Eh bien, Ibrahim, voilà. Caroline Vier.
Entièrement d'accord avec Fabrice, c'est absolument magnifique. La photo aussi de Cécile Bozon est absolument extraordinaire dans la façon dont elle photographie Paris. C'est épatant et c'est très très émouvant. Enfin, Samir Ghesmi, on l'avait vu chez plein de réalisatrices, chez Nicole Garcia, surtout chez Solveig Anspach, dont il était complice.
Il
vraiment.
A fait des comédies aussi, hein. il a beaucoup mêlé les gens dans sa carrière.
Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui se disent Samir Ghesmi, ça ne me dit rien. Et dès
qu'ils vont voir sa tête,
on l'a vu dans plein de films.
Et il a une vraie belle nature de cinéaste, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse. Et effectivement, là, je vous rejoins tout à fait.
Premier long métrage.
La caresse sur la joue du fils, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues récemment au cinéma. Vraiment.
Bon, si on ne vous a pas convaincu encore une fois d'aller voir Ibrahim, je ne comprends pas.
Si, allez-y, vous passerez un excellent moment, plein d'émotions.
Et notamment, allez-y en famille, ou en tout cas si vous avez un fils, ou même une fille, hein, parce que ça parle plus largement de l'amour familial. Ouais. Mais allez découvrir Ibrahim. On rechange complètement d'univers pour se tourner vers Cruella, signé Disney, qui après Maléfique poursuit son entreprise de réhabilitation de ses méchantes les plus iconiques. Cruella qui est donc jouée par Emma Stone.
Le monde nous ouvre des horizons. La vie avait d'autres projets pour moi. Je veux faire du grand art. Et je veux faire beaucoup de bruit.
Mais avez-vous l'instinctueuse? C'est une question primordiale.
Je suis femme. Entendez-moi rugir.
Ah, c'est la bande-annonce nous met dans l'ambiance, les amis. Le film qui va donc revenir sur les jeunes années de Cruella, dans les années 70, dans un Londres en pleine révolution punk. La jeune Estrella, au départ, a perdu sa maman dans des circonstances que vous découvrirez si vous allez voir le film. Elle rêve de faire carrière dans le stylisme, se fait embaucher comme femme de ménage dans un magasin de mode. Elle va gravir les échelons, notamment parce que ses créations séduisent la baronne von Hellman, c'est Emma Thompson. Hautaine, assez insupportable. Estrella va vouloir se venger, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas, vous avez compris, on est dans l'univers punk, dans la bande-son, dans l'image. J'imagine que ça a plu à Caroline, on voit ça dans un instant. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est génial. C'était incroyable. Les costumes, les décors, les acteurs.
Ce qui m'a plu, c'est le décalage. Ça m'a fait penser à Joker. Très 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 bon film, très belle actrice.
On m'a dit que c'était incroyable, mais je pensais pas que c'était aussi bien mené. Ça sort de tout ce qu'on aurait pu voir de Disney, on s'en rend compte. Les méchantes sont limite mieux.
Un des meilleurs animés live de Disney, je trouve. C'était bien de connaître l'histoire de Cruella que j'attendais. Aussi Emma Stone surtout.
Elle est incroyable. J'ai trouvé que l'esthétique était très chouette. J'ai bien aimé le parti pris du côté de Cruella.
Un super film très drôle, très amusant, plein de couleurs, de clarté, de légèreté. Je pense que je vais le revoir.
Ébloui, elle veut le revoir, cette dame. Caroline Vier, Cruella.
Ah, je me suis bien amusée, je l'ai vue avec ma fille de 14 ans, on a aimé toutes les deux, c'est vraiment très rigolo, c'est largement meilleur que ce que je craignais. C'est très très c'est surtout amusant, c'est très beau. Les deux actrices sont épatantes, elles sont complémentaires. Et Craig Gillespie, dont j'avais beaucoup aimé déjà Moitonia, fait vraiment une belle histoire sur la rivalité de deux femmes. Il y a un petit côté Le Diable s'habille dans Prada.
Oui.
Il y a un petit côté, bon, moins bien quand
un
même.
Un petit côté
Eve de Mankiewicz.
Non, c'est pas un petit côté, c'est toute une couture. Enfin, c'est.
Non, vous exagérez.
Ah non, j'exagère pas. C'est la même chose.
Ah, c'est deux rivalités de deux femmes dans les milieux de la mode.
Excusez-moi.
Moi, j'ai trouvé ça fort amusant. J'ai passé un bon moment. Ça n'a pas
d'autres prétentions que ça.
Et ça y parvient tout à fait. Je me suis vraiment bien amusé.
Bon,
je trouve qu'elles sont bien toutes les deux.
Mais ce diable s'habille en Prada. Alors.
C'est Cruella s'habille en Prada. Voilà. Enfin, il y a pas d'autre chose. Après, oui, ça se regarde plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Alors, c'est vrai. On dit beaucoup que Disney va un peu dans le punk, sort un peu de ses histoires.
Enfin, c'est sage quand même. Hein. Ça reste
punk,
pour les enfants.
Excusez-moi, on n'a pas dû écouter la même musique. Après, c'est surjoué à 400%. Emma Thompson, je ne l'ai jamais vu faire autant de ronds de jambes et de ronds d'œil comme ça. Après, oui, ça passe. On passe un bon moment. Très franchement, je suis beaucoup moins séduit que vous et que les spectateurs. Donc, je dois être le seul. Je devais être mal luné ce matin-là. Je ne sais pas.
Je précise qu'il ne tue même pas les chiens.
C'est distrayant. Mais enfin, ça casse pas trois pattes à un canard.
Mais
c'est pas le grand Disney subversif de l'année non plus. Faut
arrêter, subversif. Mais faut pas exagérer. Mais qui a dit ça?
Non, mais voilà. Disney fait du punk. C'est trop génial que Disney.
Il fait du punk, Disney.
Bon.
Oui.
On du va passer à Pixar, alors, voilà. Les amis.
Donc, c'est de la variété.
Cruella,
bah oui, c'est bien la variété.
Disney. Cruella, signé Disney.
Oui, allez-y, hein, allez-y, parlez.
Vous voyez la transition ? Luca, signé Pixar, cette fois. Sur Disney+.
On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaires.
Solidaires.
Toucher l'amour.
Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher les étoiles. On fera le tour du monde. Mais à une condition. Personne ne doit le savoir.
Ce que personne ne doit savoir, c'est que Luca est en fait un adorable petit monstre marin. Ce sont des sortes de gros poissons qui vivent sous l'eau, mais quand ils arrivent à la surface, eh bien, ils se transforment en humains. C'est pour ça. Voilà, Caroline me regarde bizarrement.
Oui,
donc,
oui,
Luca,
ça, oui,
il va avoir un nouveau copain. Ensemble, ils vont vouloir gagner une course qui s'appelle la Porto Rosso Cup pour gagner un super scooter Vespa rouge. Sauf que, pas de chance, ils sont tombés à Portofino, qui est la ville des chasseurs de monstres marins. Et donc, évidemment, il ne faut surtout pas qu'ils dévoilent leur vraie
identité. Surtout quand il pleut, ils prennent de l'eau, ils redeviennent monstres marins.
Qu'elles ont des bouts de peau.
Quel drame.
Bon, alors, Caroline, ce Luca.
Ah, j'aime beaucoup ça. Moi. Je trouve que c'est une jolie petite histoire, simple. Voilà, comme Pixar sait en faire, pas de fioritures comme dans Soul. Hein, voilà, c'est basique, simple, comme dirait Aurel San. C'est très beau. Les images sont absolument merveilleuses.
Parce qu'on est sur cette côte
l'Italie,
italienne.
Oui, voilà, les Cinque Terre. Voilà, c'est absolument magnifique. Ça donne faim parce qu'ils mangent des tas de trucs qui ont l'air super bons. Les c'est glaces, vrai, des pâtes au pesto qui ont l'air merveilleuses. C'est vraiment un film qui donne des envies de vacances. Ça fait beaucoup de bien à l'heure actuelle. Il ne faut pas chercher plus. Et c'est déjà très très bien. Il y a un petit personnage de petite fille qui est très rentre dedans. Enfin, voilà, je me suis beaucoup amusée, pareil. Et je trouve ça surtout extrêmement beau.
C'est le graphisme Pixar.
Tout à fait, le graphisme Fabrice. Pixar, oui. Non, c'est d'une beauté visuelle assez sidérante. Après, moi, je suis encore un peu sur ma faim, parce que j'ai du mal en ce moment à retrouver le petit génie Pixar, à retrouver l'originalité Pixar, à retrouver la poésie Pixar, à retrouver les thèmes. Alors, il y en a des thèmes assez...
Il y en a, là, sur l'amitié, sur la fraternité, sur la peur de la différence.
Peut-être même l'homosexualité.
Peut-être.
Oui, absolument.
Mais voilà, c'est sur-effleuré comme ça. Pour moi, c'est du Pixar de grande surface. Ça fait absolument
son
boulot.
Du Pixar de grande surface, c'est quand même meilleur que bien des choses. Hein.
Mais c'est ce que je
dis.
C'est
très beau.
C'est du Pixar de grande surface, mais voilà, moi, j'aimerais bien que Pixar revienne à partir de dorénavant avec des films un peu plus profonds, avec des films un peu plus pensés, avec des films géniaux, quoi.
Soul, c'était un bon film. C'était quand même un peu plus profond aussi.
Oui, c'était plus.
C'est deux produits différents.
Oui, mais pour moi, Soul est trop maniéré quelque part. Et là, il y a une simplicité.
Ah, là, on est dans
une vraie tendresse.
C'est un bon petit dessin animé qui. Voilà,
et ça fait du bien, un peu de tendresse et de bienveillance.
Mais voilà, moi, j'aime les chefs-d'œuvre de chez Pixar et il me manque un peu depuis quelques années, je vous avoue.
Ils vont vous entendre et le prochain.
Voilà. On va leur faire passer le message et ils seront là et ils diront pour Fabrice.
Luca sur Disney+, Cruella, ça c'est en salle, tout comme Ibrahim et Tokyo Shaking. Vous avez compris, on vous conseille particulièrement les deux derniers, mais tout est à voir cette semaine. Ben, les deux derniers dans l'ordre que je viens de donner.
Ah oui, oui, ah, oui,
voilà.
Oui, oui, oui.
Ibrahim et Tokyo Shaking.
On est d'accord.
Voilà. Bon, Caroline Vier, 20 minutes, merci beaucoup.
Eh bien, merci
Fabrice
à vous.
Fabrice Leclerc de Paris Match, rendez-vous chez Pixar.
Merci à
nous
vous
les
quand
amis,
même.
On se retrouve la semaine prochaine 14h-15h pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson et que vous retrouvez comme chaque semaine évidemment en podcast. Abonnez-vous, commentez, notez, on vous lit et pour le direct donc 14h-15h samedi prochain sur Europe 1.
Europe 1.